Bonjour, bien-aimés. Nous allons commencer notre culte. Je vous invite à vous mettre debout, nous allons prier. Merci, Dieu notre Père, pour ce culte que nous avons. Merci pour cette grâce que tu nous fais, de pouvoir encore nous réunir une fois de plus dans ta maison, pour te louer, pour t'adorer, pour faire monter vers toi toute notre louange, toute notre adoration. Pour aussi t'écouter nous parler. Merci encore de nous bénir. Que tu puisses prendre plaisir à ce moment que nous voulons qu'il te soit agréable. Merci encore de nous bénir dans tous ces instants que nous allons passer en ta présence pour ta gloire. Tu nous bénisses, Dieu notre Père, au nom de Jésus. Amen. Avant de chanter le premier chant, nous allons lire un psaume, le psaume 113, verset 1. À 9. Nous lisons. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Aujourd'hui encore, nous sommes dans la maison de l'Éternel, et c'est un grand jour, c'est un jour merveilleux, c'est un jour glorieux. Et dans la maison de l'Éternel, nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'être présents. Et nous voulons vraiment lui exprimer notre reconnaissance, notre joie, la joie d'être dans sa maison. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Juste avant de passer au moment de Sainte-Cène, nous voulons encore nous rappeler ce que Jésus il a fait pour nous. Il est venu, il est allé à la croix pour chacun de nous. Le sacrifice qu'il a fait, c'est pour chacun de nous. Quelle que soit la façon que nous sommes, quel que soit qui nous sommes, ce que nous avons fait, ce que nous avons commis, il est venu pour chacun de nous. Il nous attend, quelle que soit notre condition, quelle que soit notre vie. C'est pour chacun de nous qu'il l'a fait. Nous voulons encore nous rappeler que c'est à la croix qu'il est allé, qu'il est mort. Il aurait pu ne pas le faire, mais il est allé et il l'a fait. C'est pour chacun de nous. À la croix.
Tu as gagné sur la...
Amen. Sans plus tarder, je vais céder la place à notre pasteur, Émile, pour la Sainte Cène. Amen. Quand nous prenons en considération le sacrifice accompli à la croix pour nous, nous voulons vraiment élever nos voix vers Jésus, vraiment lui exprimer toute notre reconnaissance pour ce sacrifice accompli pour chacun de nous. Nous ne pouvons pas vraiment rester la bouche fermée face à ce sacrifice, face à ce qu'il a fait pour nous. Une reconnaissance que nous voulons lui exprimer. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Et comme ce chant nous invite à louer Dieu, faisons monter vers Dieu toute notre reconnaissance, notre adoration. Louons Dieu. Amen. Nous avons célébré la scène ce matin qui symbolise Jésus-Christ qui est allé à la croix pour nous. Et en fait, c'est Jésus-Christ, il n'a pas fait d'exception de personne. Il n'a pas dit que ce sera un tel qui sera sauvé et pas d'autre. Tout le monde, il a fait pour tout le monde. Tout le monde qui veut s'approcher de lui peut devenir son enfant de Dieu à partir du moment qu'il l'accepte. Jésus-Christ l'a fait pour tout le monde. Certaines personnes peuvent se dire, est-ce que mon péché est trop noir pour être accepté par Jésus? J'ai commis trop de choses. Dieu ne peut pas m'accepter comme son enfant. Comme il a été dit dans la prière, Christ accepte tout le monde. Celui qui l'accepte devient son enfant. C'est effectivement une grâce, c'est une miséricorde. C'est quelque chose qu'il a fait, nous ne pouvons pas comprendre. Mais même ceux qui l'ont crucifié, s'ils se sont repentis et ont accepté, ils sont devenus enfants de Dieu. Même ceux qui l'ont crucifié. Nous aussi, peut-être parmi nous, certains l'ont rejeté. Certains l'ont insulté. Mais ceux qui se repentent, qui l'acceptent, deviennent enfants de Dieu. Nous allons chanter un chant, Miséricorde insondable. Ce chant, effectivement, il nous est dit, celui qui vient à Jésus, on peut venir à Jésus tel que nous sommes. Et Jésus, il nous accepte. Nous allons céder la place à notre frère Adrien pour la prédication. Nous allons prier. Merci encore, Dieu notre Père, pour ces instants bénis que nous passons. Nous avons pu t'offrir toute notre louange. Maintenant, nous voulons t'écouter à travers notre frère, le serviteur que tu as choisi en ce matin, qui va nous parler de ta part. Notre frère, merci encore de le bénir. Tu mets tes paroles dans sa bouche. Tu le saignes de force. Tu le bénisses, tu le remplisses. Merci de disposer nos oreilles afin d'écouter ce que tu vas nous dire encore ce matin. Merci de nous bénir au nom de Jésus. Amen.
Alors, bonjour à tous et à toutes. Que la grâce de Dieu qui nous a accompagnés de ce matin en ces lieux soit le même pendant que nous allons partager la parole du Seigneur et aussi même après, parce que la grâce de Dieu nous accompagne tous les jours partout où nous sommes. Amen. Donc je disais bonjour à tous, à ceux qui nous visitent, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Il fait beau dehors et aussi il fait beau dans nos cœurs pour écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Gloire soit rendue à Dieu. Je vais prier d'abord pour les enfants, parce que ce matin, les enfants sont conviés à aller dans la petite salle. Il y a des vidéos chrétiennes que vous allez visionner avec notre pasteur. Donc, c'est une surprise qui vous attend de l'autre côté, les enfants. Prions. Éternel, notre Père, c'est toi qui nous as donné ces enfants. Et ces enfants t'appartiennent. Ils vont visionner, Seigneur, des vidéos chrétiennes qui vont leur parler de toi. Seigneur, ouvre l'intelligence de chacun et de chacune, afin qu'ils comprennent, Seigneur, ce qu'ils vont entendre. Les commentaires qui seront faits par ton serviteur puissent être salutaires pour chaque enfant. Bénis-les, Seigneur, pendant ces temps et que ta divine protection soit avec eux. Au nom de Jésus, amen. Les enfants, vous pouvez aller de l'autre côté. Encore une fois, je vais me remettre devant Dieu parce que ce que je veux vous partager, ce n'est pas ma parole. Ce n'est ni ma réflexion, mais cela vient de Dieu. C'est pour cette raison que je me remets encore devant Dieu. Notre frère a prié, je suis reconnaissant de sa prière devant notre Dieu. Prions. Seigneur, cette parole que nous allons entendre vient de toi. Ces réflexions viennent de toi. Tout nous vient de toi. Prépare nos cœurs à l'écoute de ta parole. Que cette parole puisse nous faire du bien, nous rappeler des choses. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons lire un texte qui va nous conduire à une réflexion. Ce texte se trouve dans l'épître de Paul, donc Colossiens 3, à partir du verset 12 jusqu'à 15. Que nous dit la parole de Dieu ? Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Amen. Ce matin, nous allons donc partager cette parole. Ces versets ont été tirés dans un contexte bien défini, que les chrétiens doivent se revêtir de l'homme nouveau. L'homme nouveau, laquelle les chrétiens doivent se revêtir, est appelé et bien aimé à se transformer, à se renouveler chaque jour pour être à l'image de son Créateur. En d'autres termes, Paul nous décrit ici dans ses textes ou dans ses contextes la conduite et l'attitude que chaque chrétien devrait adopter, auquel Dieu, en retour, s'attend de nous. Vous savez, Dieu nous a appelés à être ses enfants et nous les sommes bien-aimés. Mais pour vivre en nouveauté de vie, il y a des principes à respecter. Il y a des règles à obéir. Il est dit dans ces textes au verset 12, « Comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, nous devons donc nous revêtir chacun de nous des habits loyaux, des habits de qualité, des habits spirituels. » Et pourquoi devons-nous alors nous revêtir de ces habits? C'est pour le maintien de l'unité, de la paix dans nos foyers, dans nos familles, dans l'église où nous sommes rassemblés tous et toutes ce matin. Alors, vous allez me dire, mais quels sont ces habits que nous devons porter en tant qu'enfants de Dieu? Au verset 12 de ce texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul énumère certains. Parce que nous trouvons d'autres dans Galates 5, verset 20. Ici, l'apôtre Paul nous dit, nous devons nous vêtir de la compassion, de la bonté, d'humilité, de la douceur et de la patience. Mais ce matin, je ne veux pas développer tous ces points. Sinon, nous allons dormir là. Ça va être long. Mais il y a quand même deux attitudes importantes que nous allons sortir donc, dans ces contextes et dans ces textes que nous venons de lire. Mais avant tout, pourquoi Paul nous rappelle ces qualités? Pourquoi il nous dit cela? Parce que nous avons été élus par Dieu, bien-aimés. Donc, nul ne devient chrétien par son seul choix. Est-ce que moi, quand je suis né, je savais que j'allais être chrétien? Personne parmi nous. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus chrétiens. Dieu nous a élus dès la fondation du monde. Il nous a appelés, il nous a choisis. Donc, puisque nous sommes des élus de Dieu, puisque personne ne devient chrétien par son seul choix, mais c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu bien-aimé. Et ce choix est gratuit. Ce choix est efficace. Quand Dieu appelle quelqu'un, il est saint, comme nous avons entendu dans la prière, il est saint de force pour le servir, le louer et l'adorer. Ce choix est efficace, mes amis. Il est aussi souverain, parce que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Personne ne peut lui commander quoi que ce soit. Ce choix est libre de toute influence. Qui peut influencer Dieu pour ramener quelqu'un vers lui? Personne. Mais parlons quand même de notre élection. Dieu ne nous a pas appelés en vertu de nos bonnes œuvres. Romains nous les décrit, que nous étions tous pécheurs. Nous étions tous pécheurs bien-aimés. Donc personne n'a été appelé pour ses bonnes œuvres, mais selon le propre dessein de Dieu et la grâce que nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien avant les temps éternels, alors si je parle ici des temps éternels, c'est-à-dire que notre destin, notre élection bien-aimée, en tant qu'élu de Dieu, a été déterminée et scellée dès l'an 2 avant la fondation du monde. Et pour toute l'éternité, nous resterons enfants de Dieu. Amen. Mais, est-ce que cela est le cas dans notre vie de tous les jours? Non. Non. La nature humaine fait que notre ancienne vie, nos vieilles fautes, nos vieux défauts parfois nous rattrapent dans notre marche avec le Seigneur. Et ces vieux défauts et ces péchés, et parfois nous empêchent de progresser. Nous empêche d'aller de l'avant, empêche notre croissance spirituelle. Car l'être humain que je suis, que nous sommes bien-aimés, aimerait que l'autre soit comme lui, n'est-ce pas? J'aimerais que chacun puisse penser comme moi. J'aimerais que chacun puisse raisonner comme moi, agir comme moi. Est-ce que cela est vrai? Cela n'est pas vrai. Je ne peux pas agir comme mon frère Teddy ou ma sœur Viviane. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Mais l'homme naturel veut que son vis-à-vis, son prochain, puisse penser comme lui, actionner comme lui, agir comme lui. Et c'est là où nous voyons que les bas blessent dans notre société. C'est là où, bien-aimé, nous voyons que cette contradiction, cette façon de voir ou de penser, donc, nous pousse à faire des choses que l'homme ne doit pas faire. Lui-même, en le faisant, il se crée des adversaires tout seul. Il se crée des adversaires, il se crée des contradictions, il se crée des ennemis. Et c'est là où naissent aujourd'hui, et malheureusement, les guerres, les divisions. Et les querelles. Toutes ces choses font que l'homme ne veut pas qu'on puisse les contredire. Il veut que ce qu'il dit ou ce qu'il pense, sa façon d'agir, ça soit pour tout le monde pareil. Pourquoi tout cela? Chez l'homme sans Dieu, donc l'homme irrégénéré. C'est une monnaie courante, n'est-ce pas, pour lui. Pour lui, il trouve ça normal. Aujourd'hui, le mal, l'homme appelle le mal bien. Et le bien pour l'homme devient le mal. C'est normal, ces incompréhensions. Que cela existe et bat son plein aujourd'hui. Je prends un exemple. Il va faire maintenant un an où nous voyons ce dont nous appelons et tous les samedis à la télévision les gilets jaunes. Les gilets jaunes, aujourd'hui, cette partie de la population veut que tous puissent penser comme eux, agir comme eux, raisonner comme eux, fonctionner comme eux. Ils sont en contradiction avec les gouvernements, en contradiction avec ce qui les dirige. Je ne dis pas que les gilets jaunes ont raison ou les gouvernements ont raison, mais nous constatons ce fait que aujourd'hui il y a certains qui veulent que ceux-là qui sont là puissent penser comme nous. C'est à nous de diriger le monde ou le pays et la France. Et voire même au sein de ces mêmes catégories des personnes, eux-mêmes ils sont en contradiction les uns et les autres. Et c'est là, c'est comme une plaie qui infecte le monde aujourd'hui. Nous avons vu au niveau du Maghreb ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes en plein dedans avec ce qui se passe à Hong Kong. Toutes ces choses, ça devait nous rappeler quand même quelque chose. Ça devait quand même nous dire, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Discernons qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout cela? Pourquoi ces incompréhensions? Pourquoi ces querelles? Mais en tant qu'enfant de Dieu, si Paul, ce matin, bien-aimé, nous décrit que nous devons nous revêtir de l'homme nouveau qui se renouvelle chaque jour pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour obéir à Dieu, cela prouve que chacun de nous, encore, en commençant par moi-même, nous possédons encore des défauts que les autres ont parfois du mal à supporter. Nous possédons encore des défauts, oui. Nous les possédons, je les confirme, encore des défauts que ma sœur Véronique peut-être n'aura pas à supporter ce que je fais. Nous les possédons. Raison pour laquelle l'apôtre Paul tire la sonnette d'alarme. La première sonnette qu'il tire, il dit « Supportez-vous les uns les autres » au verset 13 que nous venons de lire. « Supportez-vous les uns les autres » Mes amis, qu'il est difficile pour l'être humain de supporter celui ou celle qui ne pense pas comme lui, qui n'agit pas comme lui, qui ne raisonne pas comme lui. C'est très difficile pour l'être humain de le faire, n'est-ce pas? Même parmi nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est tout un combat, c'est tout un problème. Nous entendons tous et toute la parole de Dieu, mais quand nous sortons, ça y est, c'est les incompréhensions. Supportez-vous les uns les autres ou vivre ensemble. Vous savez, dans notre ville de Créteil, parce que nous sommes des villes différentes, mais il y a un livre qui passe tout le mois, qui est écrit, intitulé, pardon, « Vivre ensemble » à Créteil. Vivre ensemble. Supportez-vous les uns les autres, c'est vivre ensemble. Mais c'est quoi au fait? C'est accepter les caractères, les comportements, les divergences d'opinion qui peuvent exister entre les humains. Entre moi et Erwan, ce n'est pas que tout Erwan va dire que moi je vais accepter. Ou tout ce que moi je veux dire, Erwan va accepter. Il y aura divergence d'idées, même si c'est un enfant. Mais nous devons nous supporter les uns et les autres. Nous sommes conviés à vivre ensemble. Dieu nous a créés tous différents. Même les jumeaux sont créés. Ici, nous avons des jumelles. Je ne sais pas, elles sont de l'autre côté. Mais elles sont différentes. Leurs parents peuvent en témoigner. Dieu nous a créés différents les uns les autres. Et nous constatons ces différences même dans le couple. Moi, je suis différent de ma femme. Ma femme est différente de moi. Nous pensons totalement différents. Mais nous devons nous converger vers cette vivre ensemble. Donc, nous devons nous supporter les uns et les autres. Je dois supporter ma femme, tout comme ma femme doit me supporter. C'est ce que l'apôtre Paul nous recommande ici. Nous devons nous supporter les uns et les autres. Et si je continue dans la même liste, n'est-ce pas? Je veux dire, dans nos familles, entre parents et enfants, nous devons nous supporter. Je donne l'exemple d'Erwan. Nous devons nous supporter, bien-aimés. Au travail, qu'il est difficile de supporter les collègues intransigeants, les collègues difficiles à vivre, n'est-ce pas? Vivre ensemble. Mais c'est difficile de supporter ses collègues de travail. C'est tout un combat. Et dans l'église, nous avons du mal à nous supporter les uns les autres aussi. Nous avons du mal à nous supporter les uns les autres. Allons encore plus loin. Nous avons du mal à respecter, par exemple, le peuple maghrébin, compte tenu de leur comportement, compte tenu de leur façon de vivre, de faire. Nous avons du mal à supporter les latinos, tous ceux qui vivent, par exemple, au Venezuela, etc. Ils ont leur façon de vivre. Et que dirons-nous des Africains? Nous avons du mal à supporter les Africains par leur façon de vivre, par leur mode de vie, par leur façon de manger. Ah, qu'est-ce qu'ils mangent? Parfois, ça sent. Nous avons entendu cela. Je me rappelle encore. Je ne vais pas les citer, cet homme, ces grands hommes politiciens, les bruits et les odeurs. Bien-aimés, nous ne pouvons pas supporter cela. Ce qu'ils font, c'est qu'il faut en manger. Mais je suis incapable de supporter. L'odeur est très forte. Mais lui, il supporte et lui, il mange. Et il trouve que c'est bon. Nous avons du mal à supporter aussi notre culture. Les cultures des uns et des autres. Nous, on s'habille comme ça. Mais ils s'habillent comme ça. C'est insupportable, ça. Je veux qu'ils s'habillent comme moi. Nous avons aussi notre façon d'adorer. Ici en France, l'adoration vers le Seigneur, nous avons une façon d'adorer Dieu. Je prends l'avion, je vais en Afrique, il y a aussi notre... Mais c'est le même Dieu que nous adorons, n'est-ce pas? Mais j'arrive là. Oh, le culte est long! Oh, c'est pas possible! C'est 2 heures, nous en France, c'est 30 minutes, n'est-ce pas? Ah, le message est très long! L'adoration est longue! Oh, je ne supportais pas ça. Je n'arrive pas à supporter. Et cela peut me penser même aller plus loin. Si je vais en Afrique, bon, c'est bien d'aller faire le tourisme, mais à l'église, peut-être non. On s'est pris parfois des bénédictions, n'est-ce pas? Je vais aux Antilles, je trouve encore une autre façon d'adorer Dieu. Et je critique encore. Je ne supportais pas. Ah, je sors, je vais au Mexique, c'est encore terrible. Il y a cet instrument à l'église, au Mexique, mais en France, on ne joue pas les banjos à l'église. Mais je vais au Mexique, je trouve les banjos à l'église. Ils louent Dieu. Je ne supportais pas. Qui a raison? C'est toi ou les Mexicains? Supportons-nous les uns et les autres. Mais dans tout cela, j'ai dit, il y a des discernements. Je n'oublie pas ça. Nous devons discerner quand même les pour et les contre. Paul, bien-aimé, nous dit, supportez-vous les uns les autres, mais avec quoi? Avec amour. Nous devons nous supporter les uns les autres avec amour. Mais pourquoi alors cette grande préoccupation dans le cœur de Paul, quand il a écrit ces textes? Pourquoi Paul? Je me suis dit, mais pourquoi Paul, tu nous rappelles cela, de porter ses habits pour notre nouvelle vie? Pourquoi tu nous exhortes ainsi? Parce que Paul, il savait bien. Il savait bien que nous sommes des humains, que nous pouvons fauter. Paul savait bien que nous sommes obligés de vivre ensemble les uns et les autres. Paul savait aussi qu'il y aura des foyers qui vont se constituer, des foyers païens ou des foyers chrétiens. Paul le savait. Il y aura des mariages entre les ethnies, entre les hommes. Paul le savait. Et tout cela. Mais pourquoi il le savait? Parce que il y avait, ou il y a encore aujourd'hui, un adversaire, Satan. Satan, notre ennemi. Mon frère, ma soeur, que je n'arrive pas à supporter, ce n'est pas mon ennemi. C'est mon frère, c'est mon prochain, créé à l'image de Dieu. Mais Satan, c'est lui qui est mon ennemi. Parce que Satan, c'est lui qui sème des zizanies entre les hommes. C'est celui qui dit que Véronique ne pense pas comme telle. Adrien, mais toi, c'est encore pire. C'est lui qui sème ses zizanies entre les hommes. Paul le savait. C'est pourquoi il tire cette alarme pour nous dire que, attention, supportez-vous les uns les autres. C'est ce que Satan fait dans le monde. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous sa gouvernance. Le monde dans lequel nous vivons, assombri par les péchés et la mort, est sous la gouvernance de Satan. Il tient le règne. Mais la parole de Dieu est plus que victorieuse. Parce que Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Et Christ l'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Nous avons entendu que des reconnaissances de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Ça soit dans les chants, ça soit dans les prières. J'ai dit, béni soit le nom de l'Éternel. Mais pourquoi tout cela? Parce que Christ a dit, sur la croix, j'ai tout accompli. J'ai vaincu Satan. Je l'ai vaincu. Par sa mort, par sa résurrection, nous sommes plus que vainqueurs. La victoire de Jésus-Christ est bien aimé et notre victoire, nous la possédons et nous devons la proclamer tous les jours. Quand Satan vient vers nous avec des mauvaises pensées, je lui dis, Satan, arrière de moi, parce que je ne t'appartiens pas, je ne t'appartiendrai jamais. Je suis un élu de Dieu. Et qu'est-ce que Satan va faire devant cette parole vraie? Il peut que se retourner et partir. C'est pourquoi la victoire de Christ est notre victoire. Mais comment y arriver? La parole de Dieu nous donne quelques moyens. Il nous dit, nous ne devons pas marcher comme les païens. Nous ne devons pas marcher comme des païens, c'est dans Ephésiens 4, verset 17. Nous devons être renouvelés chacun de nous de notre intelligence. Ça, c'est dans Romains 12. Nous devons nous donner à Dieu pour être remplis de son esprit. Ephésiens 5, verset 18. Alors, en parlant des gilets jaunes, là où je reviens encore, nous devons nous soumettre les uns et les autres. Nous devons nous soumettre les uns et les autres. La femme doit se soumettre à son mari, le mari aussi. Même s'il est chef de famille, hein, je dois me soumettre aussi à ma femme. Parfois, on nous dit toujours que non, c'est la femme toujours qui doit se soumettre. Mais non. Moi, je dois aussi me soumettre. Je dois aussi écouter ma femme. C'est une forme de soumission. Parce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc, si c'est moi toujours qui commande, qui est toujours au directif de chaque chose, donc ma femme n'a rien à dire. Et ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Les parents, les enfants, pardon, doivent aussi se soumettre à leurs parents. Et pourquoi pas les parents? Je vois un exemple, c'était hier, mon collègue, je le vois, il n'était pas bien. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, Julien? Il me dit, j'ai eu des embrouilles avec mon père hier. Moi, il dit, ah bon, tu as eu des embrouilles? C'est le terme qu'il a utilisé, donc, es-tu mal entendu? Moi, j'ai dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, qu'il est parti, il a quitté le travail à 13h. Donc, il est arrivé à la maison, on dit, qu'est-ce que tu as fait? Oh, je me suis reposé, j'ai pris ma douche, maman a fait à manger, j'ai mangé, je me suis reposé. Et vers 17h, quand je me suis réveillé, papa me dit, tiens, tu viens m'aider pour faire ça. Il était énervé. Il ne veut pas se soumettre à ce que son papa lui dit de faire. Son papa le convie seulement de l'aider. Je ferme la parenthèse. Il ne veut pas se soumettre à son père. Et moi, je lui dis, il faut que tu te soumettes à ton papa. Il dit, oui Adrien, mais je sais que toi c'est comme ça. Moi, je dis, c'est pas moi, c'est comme ça. Nous devons nous soumettre à nos parents. Parce que ce qu'il a dit, c'est pas mal. Ton père ne t'a pas dit d'aller voler. Il t'a dit seulement, viens m'aider. J'ai désobéi si papa me dit, va voler. Je me dis, non. Mais là, papa me dit, viens m'aider. Et il m'a laissé me reposer. Il m'a dit, c'est vrai. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi faire preuve de patience. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 4:12 ceci: injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Est-ce que cela est d'actualité aujourd'hui pour nous? On m'a insulté. Oh là 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 là. C'est pas possible. Il m'a insulté. Il m'a traité de tout. Ah non, 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 je ne veux pas. Et pourtant, je suis enfant de Dieu. Hein. Je dis, mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais l'apôtre Paul, il dit aux Corinthiens, insultés, injuriés, nous devons bénir, persécutés, nous devons supporter. Tant que nous resterons, bien-aimés, et savez-vous, nous sommes encore, les temps de la fin ne sont pas encore là, mais tant que nous vivons encore dans ce monde, dans cette chair qui colle à nous, qui est notre ennemi, bien-aimé, nous connaîtrons de l'incompréhension des autres. Ça, il faut le retenir. Les comportements déplaisants, des contre-vérités, des injustices même, parfois nos droits seront bafoués. Alors, que veut l'homme vraiment? Qu'est-ce que l'homme veut? Qu'est-ce que nous voulons? Au départ, c'est que nous voulons que nous devons être tolérés, que chacun, que toute personne me tolère moi, que chacun puisse m'accepter avec mes défauts tels que je suis. Il faut que tel me respecte, m'accepte. Mais alors, si moi je veux que X accepte mes défauts, me tolère, mais moi aussi je dois faire la même chose. Je dois aussi le respecter avec, l'accepter avec ses défauts. Préparons-nous à nous supporter les uns les autres. Supporter consiste aussi à maîtriser nos émotions, à subir, à éprouver les conséquences pénibles d'un événement, d'une action, endurer une injure même, sans réagir et sans se venger, ni se rebeller. Pour l'être humain, c'est difficile. Même moi-même, pour parler ces textes, c'est difficile. Dieu m'a mis à l'épreuve vers 3h du matin, vers 2h du matin ce matin. J'étais là, je voulais dormir pour être bien ce matin, pour parler de Dieu à son peuple. 3h du matin, en face de nous, je regarde, il y avait un groupe de jeunes. Que du bruit! Que du bruit! 4 femmes et un homme. Pendant 1h30. Je me suis dit, mais Seigneur, mais tu me mets à l'épreuve là. Je dois les supporter. Je dois les supporter. Je me suis mis debout, j'ai regardé. J'ai dit, mais Seigneur, fais-moi grâce de les supporter. Encore une fois, Seigneur, fais-moi grâce de les supporter. Le fait que j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce de les supporter, quelques minutes après, il n'y avait rien. Ils se sont dispersés. Seulement parce que j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce de les supporter. Dieu m'a mis à l'épreuve ce matin. Oui, supportons-nous les uns les autres. Même des événements qui arrivent brusquement comme celui-là, pour moi, n'est pas se venger. Je me suis dit, je ne me venge pas. Je ne prononce pas des mots incongrus. Je m'étais devant toi. J'ai t'obéi, mais je demande seulement, Seigneur, que je veux le supporter. Et c'était tout ce que j'ai dit à Dieu. Donc, supportons-nous les uns les autres. Vous savez, bien-aimés, quand Dieu nous ordonne à faire sa volonté, nous devons exécuter. C'est un ordre, nous devons exécuter. Supportez-vous, c'est un ordre. Aimez-vous, il y a plusieurs ordres comme ça. Ne plus supporter quelqu'un, est-ce que c'est compréhensible pour un enfant de Dieu? Je me suis posé moi-même cette question. Ne plus supporter quelqu'un, ne plus supporter soit ma femme, mon enfant, ma petite fille, nos enfants, mon frère, ma soeur, est-ce que c'est vraiment compatible à ce que je suis enfant de Dieu? Pour moi, non. Donc, cette sonnette est vraie. supportons-nous les uns et les autres. Appliquons-nous à nous supporter les uns et les autres. Deuxième volet, l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un a sujet de se plaindre à l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se pardonner. Pardonner, mais comment? Pardonner mutuellement. Se pardonner réciproquement, tendrement, avec douceur, avec amour. Comme Christ, lui, nous a pardonné. Ce matin encore, nous avons entendu, tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. Mais oui, le Seigneur nous tend ses bras, la miséricorde de Dieu. Mais nous ne sommes pas capables de pardonner. Souvent, que faisons-nous quand il y a un problème? Là, c'est encore terrible. Celui-là, comme je n'arrive pas à le supporter, je ne vais plus le calculer, celui-là. Fini, je ne le calcule plus. Dans ma vie, c'est fini. Son nom, je fais une croix. D'ailleurs, je vais prendre mon portable, j'avais ce numéro de téléphone, j'efface. Je vais encore sur mon ordinateur, ma page, sa page Facebook, bim. Parce que je ne peux plus le supporter. Parce que je ne peux pas le pardonner. Donc, je fasse tout. Mais si c'est trop fort, il y a des amis ou des copains ou des frères ou sœurs qui me disent, mais écoute, Adrien, pardonne. Oui, je vais pardonner, mais je ne lui fais plus confiance. Je pardonne, mais je ne fais plus confiance. Je mets un trait, c'est fini. Je l'oublie. Est-ce que c'est cela que Christ a fait pour nous? Christ, il a effacé notre dette. Christ a effacé nos péchés pour toujours. Par son sang, il nous a purifiés. Il a oublié, il ne se souvient plus. Mais moi, je continue à me rappeler, me souvenir et ressasser tout cela. Est-il normal? Alors, pardonner, c'est quoi? Pardonner comme Christ l'a fait, c'est oublier le malentendu et rétablir l'amour et la communion fraternelle. C'est ça, pardonner. Rétablir cette communion qui a été brisée, cet amour qui nous est, donc ces divisions qui nous ont séparés, nous devons nous réunir ensemble, revenir ensemble et vivre ensemble. Chacun de nous, n'oublions pas une chose importante, chacun de nous, nous sommes bénéficiaires du pardon constant de Dieu. Dieu nous pardonne chaque jour. Peut-être cependant que je suis en train de vous partager la parole de Dieu, il y a certains qui disent même, Seigneur, pour ça pardonne-moi. Je n'en sais rien, j'ai dit seulement comme ça. Peut-être il y a certains qui disent, Seigneur, pardonne-moi pour ça. C'est-à-dire que le Seigneur est prêt à nous pardonner à tout moment. Alors, si nous voulons que Dieu, le pardon de Dieu qui est constant, permanent, nous aussi agissons de même pour les autres. Si nous pouvons supporter les autres, alors pardonnons aussi et les autres, leurs fautes, leurs défauts. Même s'il m'a fait des coups, pardonnez. Christ nous a pardonné. Alors je vous pose une question. Combien y a-t-il de personnes que nous n'avons pas encore fait le don du pardon? Je m'adresse à vous. Combien de personnes que vous connaissez que vous n'avez pas fait le don de pardon? Peut-être il n'y en a pas. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que vous préparez tous les jours. Mais s'il y a, que faites-vous de cette parole? Pardonnez-vous ou pardonnons-nous les uns les autres. Il y a un proverbe anglais qui est si intéressant qui nous dit ceci. Se venger d'une offense, c'est se mettre au niveau de son ennemi. Se venger d'une offense, c'est se mettre au niveau de son ennemi. La lui pardonner. Alors, il continue. La lui pardonner, c'est se mettre au-dessus de lui. C'est beau, n'est-ce pas? Se venger d'une offense, c'est se mettre au même niveau que son ennemi. Bon, lui, je ne sais pas cet homme si c'est un chrétien ou pas. Il parle de l'ennemi, mais pour moi, mon vis-à-vis, mon prochain n'est pas mon ennemi. Voilà, bien aimé, que le sens du pardon, pardonner est une action plus noble. C'est noble, n'est-ce pas, de pardonner quelqu'un. Il faut se réjouir quand quelqu'un m'offense et que je le pardonne. Je me réjouis, je rends gloire à Dieu parce que Dieu m'a pardonné. C'est le plus beau geste et le plus beau cadeau au lieu de se venger. au lieu de se venger, au lieu de faire les invectives, ça ne sert à rien. Pardonnez. Pardon, c'est un don qui nous change, qui nous transforme. Aujourd'hui, c'est ce qui manque peut-être à notre société malade. Notre société n'arrive plus à pardonner. Les gens n'arrivent pas à se supporter ni à se pardonner les uns et les autres. Et c'est ça qui crée tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Quelqu'un, mais c'est vrai, je disais qu'au lieu de se venger, car la vengeance c'est quoi? La vengeance c'est le signe d'un cœur de pierre que l'Esprit de Dieu n'a pas encore transformé. Si aujourd'hui je me venge vers mon prochain, c'est parce que j'ai un cœur de pierre que Dieu n'a pas encore transformé. Romains 12 nous dit que voilà que nous devons nous laisser que Dieu nous transforme, nous modèle à son image. Mais si je me venge, mes amis, c'est que mon cœur est encore dur. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui a dit, écoutez bien aussi cette expression, il dit que la neige séjourne longtemps sur le sol pierreux. La neige sur le sol pierreux reste longtemps. Nous voyons bien, même quand il tombe la neige ici, sur les pierres ou des petits trucs comme ça, sur l'arbre, la neige reste longtemps. Mais par contre, sur les terres cultivées, elle disparaît vite. Il a raison, c'est lui qui avait écrit cela. C'est pourquoi je me pose la question, pour nous-mêmes, à quel sol ressemble notre cœur ce matin? Pour nous, est-ce que notre cœur ressemble à des plaques de neige qui restent longtemps? Ou alors notre cœur ressemble à des sols cultivés? Là, je parle dans le contexte de supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Est-ce que j'ai pardonné ou je n'ai pas pardonné? Est-ce que mon cœur est un cœur de pierre ou c'est un cœur qui veut pardonner, prêt à obéir à Dieu? Mon cœur a encore des plaques de neige ce matin qui jettent un froid entre nous et nos semblables. Peuple de Dieu, ne laissons jamais les rênes de notre conduite entre les mains du mal. Au contraire, prenons l'offensive et triomphons le mal par le bien. Vous savez, il est parfois difficile. Un jour, je partageais avec notre dernière fille. Je lui disais ceci. Quelles que soient les raisons des offenses, ce que tu peux subir, ce que les gens peuvent te dire, il ne faut plus tenir compte de ça. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce parce que Christ nous a fait grâce et il n'a plus tenu compte de tout cela. Nous aussi, nous devons agir ainsi, de faire grâce, de ne plus compter tout ce que nous pouvons subir jour après jour. Dieu nous a acceptés tels que nous sommes et continue encore à nous accepter encore aujourd'hui tels que nous sommes. Bien que nous sommes imparfaits, nous sommes sur le chemin de la perfection, de la sanctification tous les jours. Dieu nous supporte, mes amis. Alors, si Dieu nous supporte, de quel droit suis-je moi de dire à tel ou à tel qui doit être modelé comme moi, il doit faire comme moi, il doit manger comme moi, boire comme moi, etc., etc. De quel droit je me permets de le faire? Si mon Seigneur, mon Sauveur, me dit « Fais grâce comme moi, je te fais grâce. » Je vous laisse ça. Tant que nous vivons dans ce monde qui est tout entier sous la coupe de l'ennemi du mal, nous dit 1 Jean 5, verset 19, nous subirons des offenses. Nous allons subir des offenses. Mais par contre, nous allons aussi donner les offenses. Hein. Nous allons aussi faire subir aux autres les offenses. Nous allons parler du mal d'eux, nous allons les critiquer, nous allons murmurer sur les façons de faire, leur vie. Tant que nous sommes dans la chair, nous le ferons. Cela est naturel. Mais Dieu est capable de briser tout cela, mes amis. Faisons confiance en Dieu, parce que sa parole est la vérité. Certains se mettent en prison tout seuls, et pourtant que ce n'est pas une prison. Parce que simplement, nous ressassons. Comme l'homme, donc l'homme irrégénéré, lui, il pense que tout cela c'est bien. Mais l'homme régénéré, ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Donc Dieu brise en nous tous ces cercles de ressentiment que nous pouvons sentir ou que nous pouvons subir chaque jour. Vous savez, il y a de la haine, il y a la colère qui peuvent arriver, mais le pire, c'est tuer. C'est pire, c'est tuer. Alors vous allez me dire que moi, je n'ai jamais tué. J'ai tué personne. Le fait de ne pas aimer l'autre, Dieu nous considère comme qui? Comme un meurtrier. Si j'ai de la haine envers mon frère ou ma soeur, Dieu me considère comme je suis un meurtrier. Un meurtrier, c'est qui? C'est celui qui a tué, qui doit aller en prison. Mais Dieu nous a libérés de toutes ces choses. Et Dieu peut nous briser toutes ces choses, bien-aimés. Alors, ne donnons pas accès au diable. Ça, c'est sa parole de Dieu. Ne donnons pas accès au diable. Que le soleil ne se couche pas, bien-aimés, sur notre ressentiment, sur nos irritations. Je suis irrité, la journée était mauvaise pour moi, je suis irrité, mais que la colère ne se couche pas sur nous. Alors, vous savez quoi? Dans notre cœur, il y a un carnet, quelque part, c'est écrit « Toutes mes irritations, c'est enregistré, quelque part, de la journée. Le soir avant de me coucher, Seigneur, est-ce que je suis digne d'être dans tes bras avant de dormir ce soir? Ne suis-je pas irrité contre tel ou mon collègue de travail, ou mon enfant, ou mon mari, ou ma femme, etc. » Dieu nous dit, libérons-nous chaque soir de toutes ces choses. Libérons-nous. Parce que Dieu peut venir même dans la nuit pendant que nous dormons, n'est-ce pas? Nous devons nous libérer de toutes ces choses. Alors, nous arrivons presque à la fin. Je sais que vous êtes fatigués avec ce soleil. Mais la parole de Dieu est toujours salutaire. Ce sont des réflexions que nous pouvons nous poser les uns et les autres. Néhémie, au chapitre 9, tenait un discours lors d'un jour de jeûne des confessions de péchés devant le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie, il a rappelé au peuple d'Israël leur désobéissance à Dieu. Néhémie leur a rappelé tout ce que Dieu a fait pour eux. Mais le peuple d'Israël s'est réduit le coup. Il s'est réduit le coup. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Nous aussi, nous pouvons oublier ce que Dieu fait de nous. Ici, c'est Dieu nous pardonne. Nous oublions que Dieu nous a pardonné et nous, nous sommes incapables de pardonner aussi à l'autre. Mais ce qui est très beau dans ces textes, donc de ces chapitres de Néhémie, nous arrivons au verset 17 où nous voyons que le pardon par rapport à Dieu, Dieu est prêt à nous pardonner. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Est-ce que nous sommes lents à la colère ou alors nous sommes intempestifs, un cœur chaud? Dans Ésaïe 55, au verset 7, nous voyons que là, par rapport au pardon, Dieu pardonne abondamment. Il ne se lasse pas de nous pardonner chaque jour. Si nous avons quelques rancunes dans nos cœurs ce matin, des murmures, des irritations, souvenons-nous de l'étendue de la miséricorde de Dieu, cette miséricorde insondable que nous avons chantée avant d'écouter la parole de Dieu. Ce cantique nous a rappelé miséricorde insondable de notre Dieu envers nous. C'est pourquoi au verset 17, nous arrivons vraiment à la fin, Paul nous exhorte de nous revêtir de l'amour qui est l'attribut de Dieu et celui de Christ. Et après ça, il passe directement au verset 15 où il nous dit, il nous parle dans le même terme de l'unité. La paix c'est un facteur d'unité, c'est ça qui nous unit les uns et les autres. N'oublions pas que manque de paix dans nos foyers, dans nos familles, dans l'église, nous rappelle quoi? Que nous manquons l'amour les uns avec les autres. C'est vrai qu'il veut prendre la place des papis, mais ce n'est pas encore le temps. Voilà, donc Au verset 15, où la parole de Dieu nous rappelle que la paix, c'est un facteur de l'unité. Là où l'amour est présent, la paix aussi, elle est présente. Donc le deux, c'est collaborer ensemble. Vous savez, la paix nous libère de beaucoup de choses, les inquiétudes et aussi les craintes, tout comme le pardon. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui l'a dit, et nous avons tous lu, nous avons tous entendu, que le pardon est une puissance qui libère. Cela est vrai, c'est Samuel Azakorzian. Donc, c'est vrai que le pardon nous libère. Quand je pardonne quelqu'un, ouf, c'était un poids pour moi, et maintenant je suis libre, je suis libéré de toutes choses. Quant à nous, peuple de Dieu, nous sommes ses enfants. Son esprit habite en nous et peut nous rendre capables de nous supporter les uns et les autres. Si l'apôtre Paul tire ses deux sonnettes, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu attend de nous que nous puissions vivre ces deux attitudes dans nos vies. C'est pourquoi nous devons nous revêtir, bien-aimés, du pardon. Nous devons nous revêtir, bien-aimés, de cette œuvre. Allons, pardonnons les autres. En sortant d'ici, supportons-nous les uns les autres. Ces deux attitudes d'une vie nouvelle en Christ, Dieu nous les recommande. L'apôtre Paul lui dit, nous devons vivre ainsi. Et si nous vivons ainsi, si nous mettons en pratique la parole de Dieu, si nous obéissons à Dieu et nous faisons sa volonté, qu'est-ce qui va se passer en nous? Nous deviendrons des vases d'honneur. Des vases d'honneur destinés à faire quoi? À plaire à Dieu. Des vases nobles, pour l'usage noble, utile à notre Dieu. Sommes-nous disponibles? Sommes-nous prêts aujourd'hui que Dieu puisse nous utiliser comme des vases d'honneur, utiles pour lui, dans ce monde déchu? Alors, je vous laisse seulement une phrase. Supportons-nous les uns les autres, pardonnons-nous les uns et les autres. Amen.
Merci pour ce message de la parole de Dieu. Nous retenons qu'il faut que nous nous supportions et qu'il faut que nous nous pardonnions mutuellement. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple avait commis quelque chose, les prophètes, même s'ils n'avaient pas commis la même chose, comme par exemple le prophète Jérémie, Ésaïe, ils s'incluaient avec le peuple et ils demandaient à Dieu pardon. Pardon pour tout le peuple, même s'ils n'avaient pas commis la chose. Certainement, nous avons peut-être critiqué, nous avons peut-être jugé quelqu'un. Et nous avons vu que Dieu veut que tous les hommes viennent à lui, tous les hommes puissent l'accepter. De par notre attitude, nous pouvons attirer quelqu'un, mais nous pouvons aussi repousser quelqu'un. Et nous voulons que tous les hommes soient sauvés. Donc de par notre attitude, ayons une attitude où nous nous supportons, où nous nous aimons. Nous allons chanter un chant qui s'appelle « Pardon ».
Pardon de mes pas.
Pour les offrandes, je vais appeler Julie, s'il plaît, et Dylan, s'il plaît. Merci. Sans plus tarder, je vais appeler notre pasteur Serge.
Je vous invite à vous tenir debout pour la prière. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce temps de culte. Merci pour tous tes enfants rassemblés ce matin. Merci pour ce temps où nous avons pu élever nos cœurs vers toi, t'adorer avec le groupe de louanges, célébrer ton saint nom. Merci pour la prédication de ta parole. Merci pour ton serviteur, notre frère Adrien. Le thème qu'il a développé, que tu puisses aider chacun, chacune. Certainement que pendant qu'il prêchait, tu nous parlais dans nos cœurs, tu nous montrais des situations, tu nous montrais des occasions d'être meilleur, que tu aides chacun, notre Dieu. Saint-Esprit, c'est toi qui nous aides en tant que chrétiens à aller de l'avant, à progresser dans notre foi, dans notre marche, dans nos comportements, dans nos attitudes. Nous avons besoin de toi. Merci pour ton Église rassemblée. Nous avons besoin d'unité. Merci pour l'unité qui règne au sein de cette Église. Nous prions que tu nous aides à progresser dans notre unité, à nous donner main dans la main, à nous porter les uns les autres, à être attentifs les uns aux autres. C'est ta grâce dont nous avons besoin. Inonde ton Église de cette grâce-là, Seigneur. Te bénissons, car nous savons que quand tu parles, tu es disponible aussi pour nous aider à changer pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà.